Anaëlle Jobard, inscrite en deuxième année de master sur les nouvelles historiques
de Catherine Bernard, sous la direction de Olivier Le Plâtre
à Lyon 3. On va parler de la parenté fictive, c'est ça ?
C'est ça, la parenté fictive de Catherine Bernard. Donc, c'est un dossier qui est quand même assez complexe. Depuis le 18e siècle, la maternité de Catherine Bernard sur son œuvre a été remise en cause. Ce n'est que tout récemment que la critique a réattribué son œuvre à l'autrice et a tenté de lutter contre ce que Franco Piva appelle une tradition. Cette tradition tend à attacher la plume de Fontenelle aux œuvres de Catherine Bernard en associant l'autrice à sa famille. Pourquoi Fontenelle et comment le lien ont-ils pu être tissés ? Nous tenterons de donner une explication, même si elle ne sera pas définitive. Nous essaierons de revenir sur la généalogie complexe de Catherine Bernard pour comprendre la parenté, qui n'a encore jamais été démontrée. L'unissant à Fontenelle, ou encore à Cornu, qui a contribué à la déposséder de son travail. Je résumerai ici dans une forme de grand bilan qui peut être tiré des études menées jusqu'à aujourd'hui, afin de croiser les perspectives. C'est là qu'un état du lieu de la recherche concernant le parcours de Catherine Bernard par des siècles. Donc, il va falloir qu'on s'intéresse tout d'abord au gros problème de la biographie de Catherine Bernard. On en sait très peu sur sa famille. On en voit qu'il est toujours plus facile de faire des associations malencontreuses quand on ne peut s'appuyer sur aucune certitude. Les quelques notices qui lui furent consacrées après sa mort sont très lacunaires sur sa vie et se répètent les unes les autres. Catherine Bernard est d'ailleurs morte sans époux et sans enfant, ce qui limite d'autant plus les traces qu'elle a pu laisser. Le Mercure Galant offre deux indications biographiques qui ont longtemps été les principales références des recherches et hypothèses sur l'identité de Catherine Bernard. Je vais juste d'abord introduire ces éléments en premier afin de retracer le cheminement des recherches. Ces deux éléments biographiques incontestables sont donc l'origine rouennaise de Catherine Bernard, qui est toujours nommée Mademoiselle Bernard de Rouen dès qu'elle doit être introduite, et l'abjuration de sa foi protestante en octobre 1685, alors qu'elle est déjà reconnue pour ses ouvrages. Je doute point que vous n'appreniez avec beaucoup de plaisir Mademoiselle Bernard de Rouen, pour qui les galants ouvrages qui ont paru d'elle vous ont donné tant d'estime, a fait abjuration depuis 8 jours. Comme elle a infiniment de l'esprit, il est aisé de juger qu'elle a renoncé aux erreurs de sa naissance, la voie engagée qu'après une sérieuse et longue recherche de la vérité. Cette abjuration permet toutefois de penser qu'elle était arrivée à Paris depuis quelques années, où elle s'est fait connaître par ses premiers ouvrages. Ses écrits lui permettent de s'introduire dans l'exigeante société parisienne. Dans les années 1700, 15 ans après sa conversion, on l'appelle encore la nouvelle convertie. Les liens ayant été rompus avec sa famille, elle ne peut guère compter sur elle pour se faire une place à la cour. Ce document ne permet pas de savoir à quelle date Catherine Bernard est née, ni de quelle famille elle est issue, si ce n'est qu'elle vient d'une famille protestante rouennaise. On situe sa naissance en général vers 1662, sans unanimité de la part des chercheurs. Catherine Tuskelec, avec l'aide du pasteur Denis Vatinel, a finalement pu trouver une réponse à cette interrogation en s'appuyant sur le testament de Catherine Dirkens, qui l'identifie comme la marraine de notre prise. Donc Catherine Dirkens, épouse d'Isaac Peterson, un bourgeois de Rouen, réfugié en Hollande suite à l'édit de Nantes, et fille de Toby et Jeanne Peterson, meurt sans enfant. Elle lègue ses biens à ses neveux et en particulier aux enfants de ses deux sœurs, Marie, épouse de André Hansing, et Jeanne, épouse de Abraham Bernard. Ce testament mentionne une Catherine Bernard qui a abjuré la foi de sa famille. La dame testatrice prie son mari d'exécuter la promesse qu'ils ont faite ensemble, savoir de donner 1200 francs monnaie de France à ses nièces mesdemoiselles Anne, Madeleine et Catherine Bernard, à chacune sa part lorsqu'elle se mariera ou il en aura Hollande. Mais si sa nièce Catherine Bernard persévère dans la religion romaine, en tel cas, elle prive de sa part de 1200 francs qui reviendra à les autres sœurs. La difficulté est que les registres des baptêmes de la communauté de Rouen confirment bien cette parenté, ainsi que l'existence d'Anne et Madeleine, dans l'importante fratrie. Aucune trace en revanche d'une Catherine. Le pasteur Denis Latinel, convaincu que la nièce de Catherine Dirkens n'est autre que notre prise, semble avoir éclairci le mystère. Il note une certaine Marie, baptisée le 4 septembre 1663, issue de la même fratrie. Celle-ci aurait alors pris le prénom de sa marraine, Catherine Guillon selon Franco Piva ou Catherine Dirkens selon Catherine Tuskelec. Franco Piva a possiblement trouvé la confirmation de cette hypothèse aux archives départementales de la Seine-Maritime, dans l'acte de baptême de Godard Hansink du 8 mai 1678, l'un des enfants d'André Hansink. Une Catherine Bernard signait la présentation de l'enfant en tant que marraine. André Hansink était le mari de Marie Dirkens, sœur de Catherine et de Jeanne Dirkens. Oui, c'est complexe. Cette dernière, épouse d'Abraham Bernard, était la mère de la dite Catherine, que nous pouvons associer à notre autrice alors âgée d'une quinzaine d'années. L'une des filles du couple, nièce de Catherine Dirkens, se faisait donc bien appeler Catherine et signait avec ce prénom. La même jeune femme avait renoncé à la foi protestante. De plus, en 1680, l'éditeur Jean Riboud, lors de la publication de Frédéric de Sicile, parle d'une jeune personne de 17 ans. Autant d'indices qui nous conduisent à notre fils. En se référant à l'acte de baptême de celle qui ne fut appelée Marie que lors de ce même baptême, Catherine Bernard serait finalement née le 24 août 1663. Si l'on considère que Jacques Verkens était la mère de Marie Bernard, déjà dénommée Catherine à l'époque, notre autrice aurait, à 15 ans, présenté son cousin pour baptisement en sa qualité de parent.
Une pratique qui était assez courante dans le milieu protestant de Rouen.
Ce document semble confirmer le glissement du nom et tous les liens que nous avons précédemment établis.
La famille de Catherine Bernard
est aisée. Le pasteur Denis Vatinel l'a définie comme une riche famille de négociants rouennais attachés au protestantisme, un protestantisme à Rouen très intellectuel et très cultivé au XVIIe siècle. Les familles avec lesquelles Bernard était apparenté constituaient le niveau le plus élevé de la bourgeoisie rouennaise au XVIIe siècle, à la fois pour la fortune et pour le niveau intellectuel.
Toutefois, la rupture avec sa famille a jeté l'autrice dans une grande pauvreté, ce qui l'a conduite à demander des pensions.
Le doute maintient même sur la date de sa mort. Le seul indice que nous avons est la date de son testament, dans lequel elle lègue ses quelques biens à son domestique.
Cette date, trouvée dans les archives de la Seine, serait le 6 septembre 1712. Toute vérification est impossible puisque les registres de décès de l'époque ainsi que le testament
en question ont été détruits lors de la Commune.
Un court extrait de ce testament, daté du 4 octobre 1710, conservé aux archives de la ville de Paris et de l'ancien département de la Seine, a pu nous parvenir car il se trouvait dans un registre pour insinuer les legs faits par testament ou codicille. L'incendie des dossiers du notaire Nicolas Aumont ne nous permet pas d'en disposer dans son entièreté.
Et donc, quel lien entre Catherine Bernard et les familles de Fontenelle et des Corneilles?
Même s'ils ont fait l'objet de spéculations de toutes sortes, un élément les unissant, ténu, a quand même pu être retrouvé par Franco Piva.
Beaucoup de critiques reconnaissent n'avoir récupéré aucun document attestant une parenté.
Cela a pendant longtemps poussé à questionner cette parenté, voire à la considérer comme fictive. Une sorte de tradition a créé des rumeurs de liens étroits entre les deux familles, faisant de Catherine Bernard la cousine de Fontenelle et la nièce des Corneilles.
On observe dans l'arbre généalogique de Catherine Bernard de nombreux noms germaniques, hollandais ou scandinaves. La consonance de ces noms aurait pu nous permettre de justifier sa parenté avec Pierre Corneille, Thomas Corneille et Bernard de Fontenelle, où les origines semblent similaires.
Et à l'inverse, elle a fait des recherches généalogiques sur ces deux familles normandes et n'a pas trouvé de concordance entre les noms, même si la famille de Fontenelle comptait de nombreux calvinistes établis dans la Haute et la Basse Normandie. Les recherches menées par Alain Gers, Guillaume Dubuc et Franco Piva dans les archives de Rouen n'ont pas pu confirmer l'hypothèse d'un quelconque lien de sang
qui a possiblement pu être donné pour légitimer la relation établie entre Catherine Bernard et Fontenelle. Si parenté il y a, il s'agirait d'une parenté par alliance, selon les recherches de Franco Piva. Il parle de Marie Hansink, fille d'André Hansink, et de Marie Dirkens, la tante de Catherine Bernard.
Cette cousine a épousé en 1685 Henri Basnage de Vauval, directeur du Mercure Galant à la fin du XVIIe.
Les Basnage de Vauval étaient eux liés avec les Fontenelle et Bernard de Fontenelle, âgé de 6 ans de plus que Catherine Bernard, était alors très proche de la rédaction du journal lorsque la toute jeune autrice commençait à publier ses textes.
La rédaction du Mercure Galant était assurée non seulement par Donald de Bizet, le fondateur, mais également par Thomas Corneille, l'oncle de Fontenelle. Si un lien peut être établi entre les deux auteurs, le voici.
Peut difficilement désigner ce lien comme une parenté à proprement parler. Et bien souvent, ces rapprochements sont justifiés par les thèmes traités, le style d'écriture. Et les deux plumes sont mises en parallèle afin de justifier une parenté que l'on retrouvait dans cette écriture. Ces liens familiaux, dont l'étroitesse ne pouvait être prouvée, alors donné lieu à des hypothèses de petits romans sentimentaux, selon les mots d'Alain Midas. Cette aventure entre Bernard de Fontenelle et Catherine Bernard aurait eu lieu dans les années 1677-1678. Et cela dans les quelques petits poèmes publiés dans le Mercure Galant. On peut en citer un en particulier de François Guérin, adressé à Catherine Bernard, qui mentionne les rumeurs de quelques galants qui vous corrigent l'ouvrage. Des relations d'amitié ont pu être mentionnées, qui sont utilisées par exemple en 1732 du plaisir de Fontenelle d'être en relation d'amitié avec cette demoiselle et de l'aider de ses avis dans la composition de ses ouvrages. En 1769, Jean-François Delacroix parle de Fontenelle comme l'un des intimes amis de Mademoiselle Bernard, qui avait beaucoup de part aux pièces de Laudanie et Brutus. En 1774,
l'abbé Sabatier de Clare parle d'une liaison qui a pu contribuer autant au succès de la réputation de Catherine Bernard qu'au développement de son esprit.
On observe bien ici le glissement de la relation maître-élève qu'on a aussi pu supposer entre Catherine Bernard et Fontenelle vers une relation plus intime.
En 1841, l'historien Arsène Housset, dans la Revue de Paris, dit ceci. Fontenelle n'eut pas un grand nombre de maîtresses. Mademoiselle Bernard, la muse tragique, fut la plus connue et la moins volage. Impossible en revanche de trouver les sources qui ont conduit l'historien à une telle affirmation. Aujourd'hui encore, cette relation n'a pas pu être confirmée. Les possibles preuves de lien des deux auteurs ne semblent reposer que sur le témoignage de l'abbé Trublet dans les mémoires de Fontenelle qui les rédige. Ces liens sont toujours doublés de l'affirmation de Fontenelle prenant Catherine Bernard comme élève. Cette dynamique maître-élève est également mentionnée par Titon Dutillier, alors que le maître est déjà reconnu. Une forme de tradition supplémentaire est toujours sans preuve que mentionne également Franco Pieva lorsqu'il affirme que Fontenelle a introduit l'entreprise dans le milieu littéraire de la capitale
et l'a aidé de ça. On va pouvoir aborder quand même tout ce qui est le gros problème de l'attribution qui est forcément lié à tout ce micmac.
Si au XVIIe siècle, le concept de droit d'auteur n'est pas complètement similaire à celui que nous connaissons aujourd'hui, Alain Vialat soutient que les plus élémentaires de ces droits étaient déjà en place. Le plagiat a été dénoncé à l'époque. Vialat note que le seul moyen de se prémunir contre le plagiat et le vol pour un auteur dans la situation de Bernard était de publier et de signer son propre travail, qu'elle a fait pour toutes ses œuvres, sauf ses premières, Frédéric de Sicile et les lettres tendres galantes d'Iris et de Timon. Selon Monique Vincent, cet anonymat des premiers textes relevait plus de la discrétion bienséante que du secret. Alain Vialat a tendance, notamment dans Fontenelle à la recherche de lui-même, à attribuer les pièces de Bernard à Fontenelle. C'est un parti pris dont il faudrait nous garder. Certes, une collaboration entre les deux auteurs a très probablement eu lieu et la plume de Fontenelle a pu intervenir dans le texte de Bernard par des conseils ou des corrections, mais il serait réducteur de considérer comme Alain Vialat que Catherine Bernard n'avait que signé une œuvre qui n'était pas la sienne. De telles confusions s'inscrivent dans une source qu'il nous faut éclairer
dégrossière.
La désattribution de Catherine Bernard au profit de Fontenelle fait l'objet d'une tradition depuis le XVIIIe siècle. Les deux auteurs se sont côtoyés, on peut difficilement en douter. Si ce n'est par les liens familiaux que nous avons évoqués, ils étaient dits amis et Catherine Bernard fut apparemment l'élève de l'auteur, peut-être même dans un badinage galant, selon nous dit Vincent. Fontenelle reconnaît Catherine Bernard pour son élève lors de la publication des Léonore Dubray. On soupçonne fortement que la nouvelle a été relue et corrigée par le maître. Dans la lettre qu'il écrit à Madame Anony, j'ai trouvé que des astérisques, sur Léonore Dubray, il parle de la personne à l'origine de la lecture qu'il vient de faire et ne semble à aucun moment donner un indice d'implication dans l'œuvre qu'il recommande. L'habitude prise d'associer Fontenelle à Catherine Bernard remonterait d'abord à Voltaire. Lorsqu'il publie sa pièce Brutus en 1731, on l'accuse rapidement d'en avoir repris une grande partie à celle de Bernard, datée de 1690, dont le succès fut grand au XVIIe siècle. C'est un long article de Madame la Comtesse de, encore une fois, je n'ai pas pu trouver son titre, publié dans le Mercure de France en mars 1731, qui signale les nombreux emprunts, accusation à laquelle s'ajoute, dans le Mercure galant, une critique de la pièce de Voltaire qui juge celle de Bernard supérieure. En 1730, paraît également, pardon, c'est 1730, pardon, la pièce de Voltaire, pour les dates que j'ai trouvées. Donc en 1730, paraît également la seconde et dernière réédition de la pièce par la veuve Pierre-Lévy. Le nom de Bernard n'y était alors pas explicitement indiqué, bien que la pièce lui ait été octroyée 10 ans auparavant. La dédicace à Madame la Duchesse, la fille légitimée de Louis XIV et Madame de Montespan, est alors signée par la très humble et très obéissante servante. Il y a des astérisques, il n'y en a pas d'autres. Le nom Bernard ne remplacera les astérisques que plus tard. Neckstein voit dans cette réédition la trace d'un marché stimulé par la pièce de Voltaire. Notons que dans ces mêmes années, naissent les rumeurs d'une collaboration possible où Voltaire aurait lancé pour assurer sa défense. Alors, je n'ai pas du tout réussi à retrouver l'origine de cette affirmation, puisque même dans les lettres de Fontenelle, le nom Bernard n'apparaît qu'une seule fois, quand il la prend comme exemple pour encourager sa nièce dans l'écriture. C'est la seule mention que j'ai pu trouver. Ces rumeurs pouvaient aller jusqu'à alléguer que Fontenelle écrivait sous le nom de Bernard. On peut le voir dans la lettre d'Alexis Péron à Monsieur le Marquis de Senan d'Orgeval du 31 décembre 1730. Venons au théâtre, il paraît une tragédie de Voltaire intitulée Brutus, c'est celui qui condamna ses fils à mort, sujet traité par Fontenelle sous le nom d'une demoiselle Bernard il y a quelques 20 ans. Les avis divergent déjà à l'époque, puisque au même moment, Granet laisse entendre que la tragédie de Brutus, qui avait été écrite par Mademoiselle Bernard, guidée autrefois dans cet ouvrage par un bel esprit connu, dans lequel on peut reconnaître Fontenelle. Lina Eckstein a fait une hypothèse pour expliquer l'association entre Catherine Bernard Je vais essayer de foncer. Allez. Einstein a fait l'hypothèse donc, pour expliquer l'association entre Catherine Bernard et Fontenelle opérée par Voltaire. Lors de la publication du Brutus de Voltaire, Catherine Bernard est décédée depuis 20 ans et Fontenelle en a 76. Il est alors une figure très respectée. Voltaire, suivant le grand dramaturge, est attaqué d'une part par ses comtesses inconnues sous ses empreintes, l'existence de la thèse de Bernard engendrant une comparaison en sa défaveur, et de l'autre par Fontenelle et ses alliés qui lui reprochent une position néoclassique. Toute défense en s'attaquant à l'un ou à l'autre paraît impossible, pour cette double menace sans devenir l'amalgame des deux personnalités et en découle tous les liens supposés. L'origine de cette association n'est toutefois pas très claire en 1751. Il est également possible de discréditer ce rapprochement par une nouvelle initiative de Voltaire quelques années plus tard. En 1736, Voltaire publie La mort de César sur un thème qui avait déjà été traité avec succès dans une tragédie de 1709 par Marielle Barbier. De nouveau confronté à un prédécesseur féminin, Voltaire n'attend pas les remarques et directement dans la préface de sa propre pièce accuse Barbier d'avoir écrit sa tragédie en collaboration avec Fontenelle. Enfin, l'association entre Bernard et Fontenelle révèle son absurdité dans le fait qu'avant Voltaire, dans les 40 années qui ont précédé ses déclarations, personne n'avait jamais mentionné le fait que les deux auteurs se connaissaient. En 1751, Voltaire se prononce officiellement en faveur d'une collaboration en publiant le catalogue de la plupart des écrivains français dans le siècle de Louis XIV. À l'entrée Bernard, il précise non seulement qu'elle a écrit en collaboration avec Fontenelle, mais également que c'est ce dernier qui a composé presque toute la tragédie de Brutus. Il soutient sa stratégie de mise en doute en accusant notre autrice du vol littéraire de la fable allégorique de l'imagination et du bonheur, publiée sans nom, en attribuant à la parisière évêque de Nîmes. À l'entrée Fontenelle, parmi les éloges, il est mentionné l'aide qu'il a apportée à Catherine Bernard. Nina Einstein avance deux idées non exclusives l'une de l'autre pour expliquer cette association entre les deux auteurs. Voltaire, d'un point de vue personnel, a peut-être préféré être perçu comme ayant pris un homme, alors très respecté pour modèle, ou bien il s'agirait d'une cooptation de Fontenelle qui flattait. Ne risquez pas de contester cette attribution en les plaçant dans le même temps, dans la chambre. Les rumeurs prennent encore de l'ampleur à la suite de la mort de Fontenelle. En 1758, un an après le décès de l'auteur, l'abbé Trouvé insère la tragédie Brutus dans le 10e volume des œuvres de Fontenelle qui est la première fois que la pièce apparaît sous le nom de Fontenelle. Même s'il est remarquable que ce soit le nom de Bernard qui se trouve à la fin de la lettre de dédicace à Madame la Duchesse. Notons d'ailleurs que l'abbé Troublé est le seul parmi les anciens à étendre la collaboration de Catherine Bernard et de Fontenelle à toutes les œuvres de celle-ci, sans pour autant les lui désattribuer. Sauf pour Brutus, il dit être presque entièrement de M. de Fontenelle. L'affirmation est d'autant plus surprenante que ce volume revendique quatre pièces en même temps. Psyché, Bellérophon, La Comète et Brutus, alors qu'elles ont entre 68 et 80 ans lors de cette réédition. Les trois premières ont paru sans nom d'auteur et avaient précédemment été attribuées à Thomas Corneille pour les deux premières et à Delos de Visée pour La Comète. Trois auteurs morts depuis longtemps, donc, et pour des pièces qui avaient presque été oubliées. Encore une fois, le rôle de Fontenelle dans ces publications est inconnu, mais la fin de sa vie est marquée par la revendication de plusieurs pièces qui avaient précédemment été publiées sans qu'il soit fait mention de son nom. En 1759, Trublet, devenu le biographe de Fontenelle, publie les mémoires de celui-ci, apparemment fondées sur de longues conversations qu'il a eues avec lui sur la fin de sa vie. Quelle part Fontenelle a prise sur le fond et la fin de celle-ci, nous ne sommes sûrs de rien. Mais une partie importante de ses mémoires avait été publiée dans le Mercure Galant avant la mort de Fontenelle. Cette collaboration, c'est la même de l'auteur, retranscrite dans les mémoires. Il aida Mademoiselle Bernard dans quelques pièces, il me l'a dit et il est bien aisé de les reconnaître. Plus le temps passe et plus la place qu'aurait pris Fontenelle dans les œuvres de Bernard semble gagner de l'importance et s'étendre à toutes ses œuvres et plus seulement à son théâtre. L'abbé Trublet ajoute même que Fontenelle aurait eu une très grande part aux poèmes et autres couronnés par l'Académie Françoise et par celle des Jeux Floraux. On passe d'une aide à une revendication totale qui exclut la première tentative littéraire de Frédéric de Sicile et les poèmes qui n'ont pas été récompensés. Nina Einstein évoque quatre possibilités. Soit Trublet dit vrai, soit Fontenelle a menti à Trublet, soit Trublet a enjolivé les rumeurs apparues après le refus de Voltaire, soit la mémoire de Fontenelle est devenue défaillante avec l'âge. Toutefois, pour la postérité, c'est l'unique pièce de Brutus, la seule œuvre se concentrant sur un personnage masculin, qui est apparue sous le nom de Fontenelle, mais pas les autres œuvres de Bernard. À l'exception de quelques travaux critiques, les études sur Bernard n'ont pas écarté Brutus du corpus de l'autrice. Tout le corpus est généralement attribué soit à Fontenelle, soit à Bernard. Il n'empêche que depuis Voltaire, Fontenelle est sans cesse rattachée à ses œuvres. À la fin du XIXe siècle, Bernardin démontre ce qui rend les tragédies de Bernard meilleures que celles de La Chapelle. Voltaire nous en donne explication, Fontenelle y a mis la main. À partir de Voltaire et Trublet, la légende, si nous pouvons dire, est née. Dans les années qui ont suivi, l'attribution était en faveur de l'un ou de l'autre. légende qui a même pris une dimension populaire, puisque l'on peut voir que dans certains ouvrages de la BNF, le nom de Catherine Bernard a été rayé de la page de couverture pour être remplacé par celui de Fontenelle. Remplacé à la main, j'entends. Cette tendance à retoucher les éditions est assez révélatrice d'une croyance en une fausse maternité de l'œuvre par notre fils. Le sujet, qui est toujours teinté d'hésitation, faisait encore débat assez récemment avec Hubert, par exemple, qui a pris une part importante en faveur de Fontenelle. Le terme récurrent de collaboration génère toute l'attention du débat. Sans trace tangible de celle-ci, difficile de savoir quelles ont été les proportions dès lors qu'on la tient pour effective. Même lorsqu'au XIXe siècle, cette attribution est mise en doute, les liens familiaux sont eux considérés comme véritables, ainsi qu'on voit dans la notice que Louis-Gabriel Michaud consacre à Catherine Bernard dans sa biographie universelle et moderne. Elle était parente des deux Corneille et de Fontenelle, à qui on ne manqua pas d'attribuer ce qu'il y avait de bon dans les deux tragédies qu'on vient de citer. Donc les liens qu'on a cherché à créer de force entre Catherine Bernard et Fontenelle ont contribué à la désattribution de l'autrice. Il est encore aujourd'hui difficile d'établir le lien qui a véritablement uni Fontenelle et Bernard, familial ou éventuellement romantique, de même que l'implication du grand auteur dans la production de Catherine Bernard. Par extension, l'autrice est aussi dite liée aux Corneille. Ce que l'on remet en question véritablement aujourd'hui, c'est l'effet que toute cette tradition de l'association a eu sur la considération de Catherine Bernard par la suite. Cette tradition, dont on ne peut citer aucune source précise et certaine, place toujours notre autrice par rapport à des hommes. Cette parenté imaginée la place toujours dans une dynamique de comparaison qui lui est que rarement favorable. Les gender studies remettent ses œuvres au jour et revalorisent l'écriture au féminin, que ce soit par la réattribution de pièces à leur autrice, Catherine Bernard en étant un exemple au même titre que les analyses des paratextes qui permettent de rendre la pièce de la Folle en chair à Madame Boulet, en la retirant à son même emploi aux encours, ou par la constatation que dans ce genre de collaboration supposée, lorsqu'une pièce est critiquée, elle est attribuée à la femme, et lorsqu'elle est valorisée, elle est attribuée à l'homme. Merci beaucoup.